Pierre Michon, La Grande Beune. Entre les Martres et Saint-Amand-le-Petit, il y a le bourg de Castelnau sur la Grande Beune. C'est à Castelnau que je fus nommé en 1961. Les diables sont nommés aussi, je suppose, dans les cercles du bas, et de galipette en galipette, ils progressent vers le trou de l'entonnoir comme nous glissons vers la retraite. Je n'étais pas encore tombé tout à fait, c'était mon premier poste, j'avais 20 ans. Il n'y a pas de gare à Castelnau, c'est perdu. Les autobus, partis le matin de Brive ou de Périgueux, vous y larguent fort tard, en bout de tournée. J'y arrivais la nuit, passablement ahuri au milieu d'un galop de pluie de septembre, cabré contre les phares, dans le battement de grands essuie-glaces. Je ne vis rien du village. La pluie était noire. Je pris pension chez Hélène, qui est l'unique hôtel sur la lèvre de la falaise en bas de quoi coule la Beune, la Grande. Je ne vis pas davantage la Beune ce soir-là, mais par la fenêtre de ma chambre, me penchant sur du noir plus opaque, je devinais derrière l'auberge un trou. On descendait par trois marches à la salle commune. Elle était enduite de ce badigeon sang de bœuf qu'on appelait naguère rouge antique. Ça sentait le salpêtre. Quelques buveurs assis parlaient haut entre des silences de coups de fusil et de pêche à la ligne. Ils bougeaient dans un peu de lumière qui leur faisait des ombres sur les murs. Vous leviez les yeux et au-dessus du comptoir, un renard empaillé vous contemplait, sa tête aiguë violemment tournée vers vous, mais son corps comme courant le long du mur, fuyant. La nuit, l'œil de la bête, les murs rouges, le parler rude de ces gens, leurs propos archaïques, tout me transporta dans un passé indéfini qui ne me donna pas de plaisir, mais un vague effroi qui s'ajoutait à celui de devoir bientôt affronter des élèves. Ce passé me parut mon avenir. Ces pêcheurs louches, des passeurs qui m'embarquaient sur le méchant rafiot de la vie adulte et qui, au milieu de l'eau, allaient me détrousser, me jeter par le fond, ricanant dans le noir, dans leur barbe sans âge et leur mauvais patois. Puis, accroupis au bord de l'eau, sans un mot, ils écaillaient de grands poissons. Les eaux confuses de septembre frappaient au carreau. Hélène était vieille et massive, comme la Sibylle de Cum, comme elle réfléchie, et de même attifée de belles guenilles coiffées d'un fichu roulé. Son gros bras à la manche relevée essuyait la table devant moi. Ses gestes humbles rayonnaient d'orgueil, d'une joie silencieuse. Je me demandais quelle aventure l'avait mise à la tête de cette taverne rouge sur quoi régnait au-dessus d'elle un renard. Je lui demandai à dîner. Elle s'excusa modestement de ses fourneaux éteints, de son grand âge, et me servit à profusion de ces choses froides qui, dans les récits, tiennent au corps des pèlerins et de gendarmes, avant que dans leur corps ne passe le fil d'une épée à la traverse d'un guet tout noir et plein de lames. Du vin là-dessus dans un gros verre pour affronter mieux les lames. Je mangeais ces charcutailles de haute époque. À la table voisine, les propos se faisaient rares, les têtes se rapprochaient, alourdies par le sommeil ou le souvenir de bêtes descendues en plein bond, mourant. Ces hommes étaient jeunes. Leur sommeil, leur chasse, étaient vieux comme les fabliaux. Mes brigands valaques à la fin coiffèrent leurs bonnets, ils furent debout et, dans des cirés d'un noir d'encre dont les plis cassés brillaient, s'éloignèrent bravement vers leur besogne obscure de passeurs, de dormeurs. L'un d'eux avait par-dessus cette cote nocturne, étoilée, un fin visage aigu qu'il tourna vers moi. Il me fit un sourire complice ou apitoyé dans lequel jaillirent des dents blanches. On entendit démarrer des mobilettes. La nuit, par la porte, restée ouverte, était trouble, immobile. La pluie galopait ailleurs. Il y avait du brouillard maintenant. « C'est Jean le pêcheur, » dit Hélène avec un petit mouvement de la tête vers ce brouillard où détalaient des moteurs grêles. Son geste était si vague qu'elle aurait pu aussi bien nommer le brouillard. Elle souriait. Ses rides dans ce sourire s'ordonnaient à merveille. Elle ferma sa porte, tripota des interrupteurs, tout s'éteignit. Me levant, je dormais déjà. J'étais n'importe où, dans des pays où les renards passent dans les rêves et au cœur du brouillard des poissons qu'on ne voit pas sautent hors de l'eau. Ils retombent avec un bruit mat au fin fond de la Dordogne, c'est-à-dire nulle part, en Valachie. Il plut pendant tout septembre. Mes élèves n'étaient pas des monstres, c'étaient des enfants qui avaient peur de tout et riaient sans raison. On m'avait confié la petite classe, non pas la plus petite, mais le cours élémentaire. Ça faisait beaucoup de petits corps semblables. J'apprenais à les nommer, à les reconnaître, courant sous la pluie vers le trou venteux des préaux pendant les récréations, tandis que derrière les hautes fenêtres, je les observais. Et puis tout à coup, je ne les voyais plus rencognés sous un auvent derrière le corps multiple et cavalier de la pluie. J'étais seul dans la salle d'école. Je regardais sur tout un rang de patères leurs cabans pendus qui fumaient encore des pluies du matin, comme sèchent dans un bivouac les paletots d'une armée naine. Je nommais aussi ces petites défroques, je les attribuais avec un peu d'émoi. Et bien sûr, il y avait au mur de grands tableaux, avec des lettres, des syllabes, des mots et des phrases flanquées de dessins, de coloriages, toute l'imagerie naïve qui flatte les esprits enfantins, les fers et leur fourgue des conjugaisons qui font pleurer sous le leurre de garçonnets obèses qui font rire, de fillettes à nattes et de petits lapins. Les enfants bougent les pieds quand ils pensent, quand ils pleurent. Je voyais sous les tables la trace de cette danse appliquée, triste un peu, debout en rond, et de gros pâtés sur le bois blanc témoignaient du même rythme, de la même piété. Oui, cela m'émouvait. C'est que je n'en étais pas loin avec mes 20 ans. Surtout, je m'en éloignais. Je n'y étais plus. Ce qui dormait sous la poussière dans un meuble à vitrine contre le mur du fond venait de beaucoup plus loin. Cela venait du siècle dernier, de l'époque barbichue de la République des Jules, de ces temps où des curés périgourdins athlétiques, retroussant leurs soutanes, rampaient dans les grottes vers les eaux d'Adam, et où des instituteurs, périgourdins aussi, de même rampaient et se crottaient avec quelques mouflets vers l'os, prouvant que l'homme n'est pas né d'Adam. Ça venait de là, comme l'attestaient les étiquettes collées sur chaque objet, où des noms savants avaient été calligraphiés de la belle main qui caractérise ces temps, la belle écriture vaine, ronde, encombrée, fervente, qu'ils partageaient alors, les naïfs, les modestes des deux bords, ceux qui croyaient aux Écritures et ceux qui croyaient au lendemain de l'homme. Mais ça venait aussi, quoique plus parcimonieusement, de notre siècle, de 1920, et alors la calligraphie avait déjà laissé de belles plumes à Verdun. De 1950, et la calligraphie s'était à jamais brûlée les ailes et était retombée en cendres, en pattes de mouche dans les enfers de la Pologne et de la Slovaquie. Les camps célèbres, pas loin du camp d'Attila, mais en regard de quoi le camp d'Attila était une école de philosophie. Les plaines à Betrave et à Mirador, où Dieu ni l'homme, une fois pour toutes, n'eurent plus cours. Et en dépit de Verdun et des brouillards slovaques, les instituteurs sans calligraphie de notre siècle avaient continué tout de même, héroïquement dans un sens, à mettre des grands noms sur des petites pierres avec la foi qui leur restait, celle de l'habitude, ce qui est mieux que rien. Et par-delà les instituteurs de tout poil, cela venait d'autres hommes qui avaient fait l'objet et non pas l'étiquette, des hommes dont on ne sait plus s'ils croyaient à quelque chose en les faisant ou s'ils ne croyaient à rien en les faisant par habitude, mais dont on pense avec raison que jamais ils ne déchurent jusqu'au cercle slovaque. C'était des pierres. C'était des armes, à ce qu'on dit. des harpons, des haches, des lames qui avaient l'air des cailloux que le sol crache après les pluies d'orage, ce qu'ils sont aussi. C'étaient des silex, les fabuleux silicates qui ont reçu les noms de patelins perdus et qui ont en retour chargé ces patelins d'un monceau d'âge, ont creusé dessous d'infinies catacombes plus vieilles que Mycène, plus vieilles que Memphis. Toute la Genèse avec tous ses défunts, si bien qu'on se demande à qui s'adresse le maire des Aisies le 11 novembre, avec son petit papier dans la bise devant le monument aux morts. Les grossiers silex précieux à leur façon, comme les masques d'or de la vallée des rois, plus précieux. Les nobles silex aux noms à rallonge qui, par-dessus leur patronyme de paroisse dans la Somme, dans le Lot, dans l'Yonne, portent des prénoms de poissons et d'arbres, d'oiseaux. La feuille de saule de Solutré, le bec de perroquet de la Madeleine et la grande limande de Saint-Acheul, la plus belle, la plus vieille, la plus perverse, écaille à écaille éclatée, qui tuait impeccablement des bœufs. Il y avait là cette vitrine. C'est qu'on est à deux pas de Lascaux. La grande bune se jette dans la vieille Vézère, le sol est farci de cet outillage d'abattoir. Ces grenades obsolètes à jamais dégoupillées roulent dans les ruisseaux, se prennent aux glaces, viennent dans les racines des arbres effondrés et sautent hors des labours. Les enfants les ramassant sur un chemin les rapportent à l'école sous leur capote, dans leur petit bonnet valaque, et avec un gentil sourire tendent au maître qui s'y connaît, qui s'y intéresse, dans leurs mains débiles, ce morceau de ténèbres. Cela fait, ils s'assoient, défont leur cartable, s'absorbent en frottant des pieds, penchent leur natte et leur nuque fraîche sur un pinsomme où des petits lapins leur apprennent à lire, et pour faire plaisir à leurs parents, à leurs maîtres, à eux-mêmes parfois, travaillent à devenir grands, avec ça dans le dos, derrière une vitrine avec des étiquettes. Ces pierres donc avaient roulé jusqu'à l'école de Castelnau et attendaient le déluge pour rouler ailleurs, dûment étiquetées cette fois, afin d'être lu des poissons. Il y avait encore un quart d'heure à tuer avant la fin de la récréation. Par la fenêtre, toujours la pluie ou ce brouillard avec des gens dedans qu'Hélène avait appelé Jean le pêcheur. Deux petites couettes là-bas tentaient une sortie dans la cour, piquaient un galop, avec des cris frileux et ravis revenaient dans le préau. Je laissais là les cailloux, leurs messes basses, je m'asseyais au bureau, j'étendais les jambes, je m'adonnais à une autre dévotion, à une autre violence. Je pensais à la buraliste. Le bureau de tabac était sous les vieilles arcades, sous le champ de foire qui est la place de Castelnau avec les commerces. J'entrais là à peu de temps de mon arrivée après l'école un soir. Et bien sûr, il pleuvait. J'avais les cheveux trempés. La boutique était vide. Je regardais vaguement près de la porte le tourniquet de cartes postales, le loup esselé de fond de gaume et les grandes vaches de Lascaux, les bisons tout ronds et ces femmes effarantes de même époque qu'on appelle des Vénus, les fesses démesurées avec un long cou fin. On vend ces images partout dans la région. Parmi ce zoo, ce harem, une image insolite m'arrêta un moment. C'était une reproduction de statuettes polychromes, sans doute en plâtre, de pauvre facture, qui montrait un moine froqué, écroulé contre une souche d'arbre où de longues flèches le clouaient de part en part. La tête tonsurée retombait. L'homme était mort. Retournant la carte, je lus que c'était le bienheureux Jean-Gabriel Perboire, un jésuite que les Chinois supplicièrent vers 1650, et natif de Castelnau. Quoiqu'il fût un peu ridicule, le port abandonné de la tête le faisait touchant, avec une résignation, peut-être un accablement, qui séguait mal à un saint ou mort qu'il fût. J'entendis claquer les talons, je me retournai, et elle était derrière son comptoir. Je la voyais à mi-corps, elle avait les bras nus. Je ne crois guère aux beautés qui, peu à peu, se révèlent, pour peu qu'on les invente, seulement portent les apparitions. Celle-ci me mit à l'instant d'abominables pensées dans le sang. C'est peu dire que c'était un beau morceau. Elle était grande et blanche. C'était du lait. C'était large et riche, comme là-haut les houris, vaste, mais étranglé avec une taille serrée. Si les bêtes ont un regard qui ne dément pas leur corps, c'était une bête. Si les reines ont une façon à elles de porter sur la colonne d'un coup une tête pleine mais pure, clémente mais fatale, c'était la reine. Ce visage royal était nu comme un ventre. Là-dedans, les yeux très clairs qu'ont miraculeusement des brunes à peau blanche, cette blondeur secrète sous le poil corbeau, cette énigme que rien, si d'aventure vous possédez ces femmes, ni les robes soulevées, ni les cris ne dénouent. Elle avait entre 30 et 40 ans. Tout en elle était connaissance du plaisir, celui sans doute qu'on entend d'habitude, mais celui aussi qu'elle dispensait à tous, à elle-même, à rien quand elle était seule et ne se voyait plus. Seulement en posant là le gras de ses doigts, en tournant un peu la tête, et alors les sequins d'or qu'elle avait aux oreilles touchaient sa joue, en vous regardant ou en regardant ailleurs. Et ce plaisir était vif comme une plaie, elle savait cela. Elle portait cela avec vaillance, avec passion. Alors, on ne peut en parler. Non, ça n'est pas né de l'argile. C'est comme le battement furieux de milliers d'ailes en tempête. Il n'y a pas pourtant de matière plus comble, plus lourde, plus enferrée dans son poids. Le poids de ce mi-corps, somme toute gracile en dépit de l'évasement des seins, était considérable. Des paquets de cigarettes bien rangés derrière elle l'auréolaient. Je ne voyais pas sa jupe. C'était pourtant là, derrière le comptoir, démesuré, insoulevable. La pluie brusque dehors fouettait les vitres. Je l'entendais crépiter sur cette chair intacte. Mes cheveux dégouttaient encore sur mon front. Cette femme, les lèvres un peu ouvertes, bienveillante et à peine étonnée, considérait patiemment mon silence. Elle attendait ce que je voulais. Je parlais dans un rêve, d'une voix nette pourtant. Elle se détourna, son aisselle apparut quand elle leva le bras vers son rayonnage, et la main franche, suave, baguée, s'ouvrit sous mes yeux dans son creux le paquet rouge et blanc de la Marlboro. J'effleurais cela en prenant le paquet, pour voir encore ce geste peut-être, la monnaie dans la paume, les ongles peints se réunissant, se défaisant, j'achetais aussi le sein fléché de la carte postale. Elle souriait tout à fait. « Vous voulez une enveloppe ?» dit-elle. « Bien sûr que j'en voulais une. » La voix était généreuse aussi. Les paroles y venaient comme un don. Une fois de plus, le bras blanc plongea, la main prit, les sequins caressèrent la joue. Quand je sortis, l'éclaircie était au moment de se faire. Le pavé rajeuni luisait, il ne pleuvait plus. Dans la pente, vers chez Hélène, vers la grande bune, le soleil parut. Le ciel s'ouvrit et les arbres blonds s'élancèrent. J'avais dans la gorge, dans les oreilles, quelque chose de plaintif, de puissant comme le cri interminable, mais coupé net, modulé, plein de larmes et d'invincibles désirs, qui fait venir de gorges nocturnes, enchaînées, curieusement libres, le mot « honey » dans les blues. Dans la salle chez Hélène, le soleil se couchait au-delà de la bune. D'autres nuages, très noirs, se penchaient comme des servantes, venaient. L'amour qui meut les étoiles et mouvait les étoiles là derrière, les fardait, les parait comme des esters, les dénudait pour que, toute blanche, elle se montre dans un instant. Les rayons caressaient le poil roux du renard, les petits enfants dans la campagne voyaient luire un caillou rajeuni, et c'était un biface qu'il m'amènerait demain avec quelque chose comme de l'amour. Là-haut, sur la place, la buraliste frémissait des fêtes brutales de la nuit. Sa main peut-être tremblait fugacement sur un paquet de Marlboro. Sa jupe caressait ses cuisses. Honey. Quand le soleil descend, quand la nuit vient, quand l'âme des femmes est nue comme leurs mains. Osais-je penser qu'elle pourrait être à moi? Oui, sans doute, et furieusement. Mais par un miracle seul, à peine plus étonnant après tout que celui qui permettait qu'elle existât à Castelnau et faisait naître d'une main divine des paquets de Marlboro. J'étais dans l'âge où l'on croit n'avoir rien à donner, rien qu'on puisse échanger contre tant de richesses. Les cuisses et les seins, les sequins d'or et le cri des jupes, rien. Et sûrement pas cette chose incongrue qui vous pousse magistralement au ventre. Et puis j'étais de ces générations absurdes, encombrées, qui imaginent que le désir de vous vient aux femmes sous la réserve qu'on puisse leur parler de choses signalées ou sévères. La chansonnette ou les beaux-arts, la politique, la bouillie de l'air du temps. Ou si on ne peut leur en parler, qu'on leur marque au moins que tout cela n'a pas de secret pour vous. J'étais joli garçon pourtant, sans doute aimable, et ce qui me poussait au ventre était bien suffisant pour la convaincre. On l'aurait été plus tôt, on l'apprendra, si son cœur, comme on dit, n'avait pas été pris. Donc je ne tentais rien. Je n'eus d'autre geste vers cette main que pour y cueillir le paquet rouge et blanc. Mais je faisais l'avantageux en achetant Le Monde, que je ne lisais pas. Elle vendait aussi les journaux, dont les exemplaires s'empilaient dans ma chambre au-dessus du grand trou inculte de la beune. Et certes, elle ne voyait rien là qui m'avantageât et s'en foutait bien. J'allais tous les jours à la boutique. Ce que ma passion vraie du tabac et ma passion feinte des feuilles indigestes justifiaient suffisamment. Nous échangeions quelques mots. Elle donnait son sourire et la chaleur de sa voix. Elle était patiente. Sa jupe crissait. Parfois, je voyais ses jambes, ses talons toujours hauts. J'avais remarqué que souvent, les dimanches et les après-midi, elle prenait à pied la route des Martres. Haut talonné toujours, quel que fût le temps, fringué et revenait longtemps après ou pas du tout, à moins qu'elle n'eût pris un détour que je ne connaissais pas. Je me demandais peu ce qu'elle allait y faire. Le ciel me la donnait, l'y apercevoir me suffisait. Cette route devint bientôt ma passion. Il y avait là de grands prés, des noyers obscurs à la sortie du village, et plus loin, des bois parcourus de multiples sentiers conduisant à des hameaux. Tout cela suivait la lèvre de la falaise, ça grimpait fort parfois. Il y avait des caches derrière des éboulis, des combes où rien ne se voyait que le ciel, des haltes secrètes sous des hêtres. Là, les après-midi de congé, le plus souvent sous la pluie, je faisais mine de prendre l'air et de m'intéresser fort aux herbes et aux cailloux. Les instituteurs ont de ces lubies, de ces licences, mais je tournais en rond dans les sentiers et l'attendais, raide, crispée dans une contention douloureuse qui faisait battre, comme à même mon sang, une femme parée, puis nue, rhabillée aussitôt et nue. Un rythme de nylon, d'or et de peau, mille soies battant cette chair de soie. En ces dispositions, j'allais jusqu'à la beune. Je la regardais là, en bas, couler dans son trou, des eaux sales sous un ciel sale où des poissons invisibles frayaient, les yeux grands ouverts et mornes. Que ce monde était beau pourtant, où des nylons pouvaient emplir mon esprit, le dénuder en dénudant une chair rêvée. Je revenais sous le couvert, je m'arrêtais soudain. J'imaginais sa bouche, J'imaginais sa gorge. À la pensée de ses reins, je tremblais au-delà de toute convoitise. Te voyant, me disais-je, peut-être elle va sans un mot renverser la tête, trembler comme tu trembles, te saisir là où tu veux la saisir, et les jupes dans ses mains, elle se donnera là, contre ce bouleau, dans ces flaques où seront tombés ses sequins, où pétriront ses paumes, où tu verras l'image de ses seins, et plus secoué qu'un arbre dans le vent, ses grands cris renversés feront partir des corbeaux. Mon cœur manquait. J'entendais un bruit, je me donnais le maintien du promeneur attentif. Ce n'était qu'une bête des talents, et d'autrefois, elle était là. Elle venait dans la feuillée, la boue, avec ses hauts talons et son phare impeccable, sa taille, gantée parfois, les mains dans les poches de son impair, la tête haute, la reine, à ma hauteur, s'arrêtait, me parlait du mauvais temps, me disait gentiment que je fumais trop. Je répondais sur le même texte, je tombais dans son sourire, je voulais garder cette goutte de pluie prise dans le duvet de sa joue, hésitant, coulant. Le violet de ses cernes me déchirait. Son parfum dans le bois me poussait au ventre. Elle s'éloignait, ses jupes bruissaient plus haut que les arbres, les talons transperçaient les feuilles tombées. L'impair que les mains dans les poches tendaient s'évasait à ses fesses. Je suffoquais de brutalité. Le monde était une chair blanche, un beau morceau. Jean-Gabriel Perboire n'était pas percé de flèches plus brûlantes ni plus écroulées contre sa souche que je ne l'étais contre la mienne, me donnant du plaisir avec des mains qui n'étaient plus moi, qui étaient à elle. Les délices dont elle me combla, qu'elle me donna bien elle-même dans un sens, car je suis sûr que ce n'était pas à son insu, sont les plus aigus qui m'aient jamais traversé. D'autrefois, elle ne venait pas du tout. Je ne rentrais que près de la nuit. En descendant parmi les noyers, je voyais là-haut le village Valac, Périgourdin, la longue école perchée du temps des Jules où dormait l'arsenal, la panoplie des vieux hommes qui avaient eu du désir dans les bois. Et l'église un peu plus bas, avec dedans son petit Jean-Gabriel qui avait désiré qu'on le suppliciât sur le fleuve jaune, l'avait obtenu et était bien heureux. Et l'auberge éternelle, les branches et la pluie se jetaient au carreau. Une bouilloire chantait, le percolateur fumait. J'étais trempé mais bouillais dans cette eau. Je m'asseyais éberlué sous le renard familier. Il y avait quelques buveurs dans des cirés fumants, quelques passeurs qui, à grands coups de bière, sans décoller du comptoir, se transportaient de l'autre côté, sur la rive d'en face qui ressemble à celle-ci, où il y a les mêmes gens, mais qui est plus molle, plus chaude, plus vibrante. Jean le pêcheur n'était pas là, d'ailleurs, il n'y habitait pas et ne venait pas tous les soirs. On l'avait vu partir avant l'aube à l'anguille, ou on ne savait quoi. Il avait fait un clin d'œil et, tournant le dos, il avait disparu avec ses nasses, son araignée sur l'épaule, vers la petite bune. Hélène me servait son perpétuel jambon, ses pâtés de mousquetaire. Mon désir n'avait pas décru. Il me pesait au ventre pendant que je mangeais. Je battais la campagne, je passais les bornes. J'imaginais dans la salle sans bœuf, aux odeurs de mégots, de futailles, de salpêtres, tous les buveurs partis vers la nuit noire, à quoi nul ne résiste. La buraliste cédant aussi à cet appel, se dressant sur son lit, jetant son impair sur son dos pour accourir, là, en tordant ses chevilles sur ses hauts talons, la reine, entrant comme le vent, à deux mains tremblantes, ouvrant l'impair, et à ma seule disposition, sous l'œil réfléchi d'Hélène derrière son comptoir, jetée, nue, sur les tables poissées, sur le flipper éteint, y secouant ses sequins, y perdant ses yeux blancs, dans toutes les postures enfin où se puisse le plus largement connaître son poil corbeau, ses cuisses orgeat, ses fesses de nacre, jouissant immodérément sous un renard, ses cris d'or frais tombant, dévalant la falaise et tenant les braconniers accroupis sur la peune. Je les tripais. Hélène desservait, réfléchit. Son gros bras plein d'élégance essuyait la table. Je pensais à ce qu'il y avait eu jadis sous ses belles guenilles. Elle ne paraissait pas souffrir qu'il n'y eût plus rien. Elle était débarrassée peut-être de cette enflure, de cette brûlure qui jette les plus jeunes vers le drame et la nuit, les avilie et les sacre, les fait à quatre pattes se perdre de plaisir, et à quatre pattes aussi, et à peine moins hurlantes, se perdre d'autrefois de douleur, de deuil, de misère. La chair morte d'Hélène rayonnait. C'est que sa chair n'était plus elle, mais qu'ailleurs, détachée, libre d'elle, sa chair était alanguie sur la petite bune, ou accoudée dans un autre bistrot à Saint-Amand-le-Petit, épatait les buveurs par ses exploits au lancer, aux balances, son bagou, sa fine ruse très ancienne et ses bricolages de bouts de fil et de plomb qui ne l'étaient pas moins. Sa chair déambulait loin d'elle avec à l'épaule une besace bourrée de fretins, de gitane maïs, d'amorces, s'arrêtait bien campée face à la rivière et fouettait l'eau sombre de nylon clair, de mouches nickelées. La chair d'Hélène était le meilleur pêcheur du canton, peut-être du département. Elle était la mère de Jean le pêcheur. Et ceci maintenant lui suffisait. Ceci serait encore là sur ses talons, près de l'eau, guettant, pestant, exultant, ferrant, brutalement dévoilant les écailles de nacre dans la lumière vivante quand elle serait embouillie sous la terre de Castelnau, près de l'église. Elle me parlait un peu, entre ses paupières malignes, me regardait bien, il faisait mine de m'écouter. Elle savait sans doute, quoiqu'elle ne sût pas, que mon désir s'appelait précisément Yvonne et vendait des Marlboro. Donc, un moment, je les voyais là, toutes les deux, l'absente et celle-ci, la calipige et la devineresse, mais immémoriales, chacune à sa façon. Je quittais la salle sans bœuf, la caverne avec ses mères, ses fils, ses compagnons de tracteurs dont les libations font des frères, et sa grande calipige là-dessus, molestée, creusant les reins, à cela donnant but et passion démesurée, invisible. Les pères chassent dans l'au-delà. Je me couchais. La lune un instant pénétrait dans ma chambre et très loin dans les clairières perdues caressait des silex que nul ne voit. La pluie plus furieuse les enfouissait. Des portes battent dans la nuit noire. Le sexe encapuchonné des chiens frémit, il grogne. Je m'endormais sur des femmes qui poussent ces portes, entrent dans les granges. Jean le pêcheur prend une carpe. Et le matin, c'était l'école, les ronds des petits pieds. C'était les écritures qu'on apprend en pleurant, la phrase et l'orthographe, sans savoir, d'ailleurs on ne saura jamais, que plus tard, quand les petites couettes seront du poil corbeau, quand les pantalons seront longs, même en plein été, alors qu'il n'y aura plus que l'écriture, avec tous ses effets, les machines et les offres d'emploi, les mobilettes gonflées et les fusils de chasse, les booms et le cinéma périgueux. Il n'y aura plus que cela entre vous, et ce qui vous pousse au ventre, ou, pour les petites couettes, entre vous et ce qui vous fend le ventre, pousse à l'envers. Les petits pieds bougeaient, les yeux tout ronds me regardaient. Les genoux s'appliquaient sous les tables, les mains écrivaient. Les calligraphes des Jules veillaient là derrière avec leurs belles mains, et les autres mains, ferventes aussi et précises, qui, écaille par écaille, patiemment taillèrent les limandes aquléennes, les harpons pour aller pêcher, écrire sur l'eau. Et moi qui continuais. Moi, sérieux comme un barbichu qui leur apprenait l'orthographe avec son col monté, son boutonnage au raccord exubérant, son falbala, sa fibule, mais qui, à peine était-il dans le préau derrière la pluie, dépouillait et ouvrait une femme très blanche qui leur vendait des sucettes et qui leur souriait, qui était la maman de l'un d'entre eux. Oui, j'avais dans ma classe quelque chose qui lui ressemblait, qui en avait les yeux clairs sous la paupière charnue et les cheveux d'encre, mais pas les seins ni les fesses, sans parler des sequins, et qui donc ne lui ressemblait pas du tout. C'était Bernard, son fils, qui avait 7 ans et dont la chair surnuméraire ne lui servait pas beaucoup à elle, car elle avait en propre une chair autrement impétueuse et dense que ses 30 kilos de 7 ans. Il y avait donc entre elle et moi une autre médiation que les cigarettes et les habitudes fabuleuses que me donnaient les bois où elle apparaissait, une autre monnaie que ces rencontres truquées, furieuses, courtoises. C'était cet enfant. Novembre vint et la pluie ne cessait pas. La beune était grosse, elle noyait les sentiers de pêcheurs. Des grues passèrent très bas, et nous étions tous là dans la cour de l'école, le visage ruisselant, renversé, à considérer ce grand V qui jetait des cris sur le blanc épais des nuages, lentement ratissait le ciel comme un filet ramené dans la beune. Un paysan en tua une, attardée, fatiguée, qui s'était posée près de l'eau. Et je la vis le soir chez Hélène, sur le comptoir, entre les grands verres de mousse. La blessure n'apparaissait pas. Le cou blanc pendait de ce côté-ci. Le bec s'allongeait comme pour le vol, à col étendu. Des hommes en ciré dégoulinant fonçaient leurs doigts dans la plume, pétrissaient la grue morte. Elle ne fut pas empaillée. Les gens n'ont plus le goût de ces choses-là. Des grues passaient, mes élèves apprenaient à conjuguer. Vers ce même temps, un dimanche matin, je montais vers mon petit Golgotha, souhaitant qu'Yvonne portât telle robe que je lui avais vue la veille, eut dans son poil les 2 grands peignes que je préférais, dénudant les joues de sorte que s'offrit davantage l'empattement léger par quoi le menton fléchissait vers le cou. Il y avait du monde dans le tabac. Des hommes endimanchés, venus des hameaux, renouvelaient leurs paquets de gris, et des commères de village glanant après la messe de quoi médire, de quoi survivre. Derrière toutes ces épaules raides, dans les costards, les robes de pilou, Yvonne servait enjouée et donneuse comme à son ordinaire. Elle avait les peignes, elle avait la robe. Son visage, plus grand que jamais, me dépossédait, m'enlevait au comble du bonheur. Un homme survint qui dépassa cavalièrement tout ce monde et, s'appuyant au comptoir, se pencha à peine sur Yvonne. Il lui dit quelques mots que j'étais trop loin pour entendre. D'ailleurs, il me sembla qu'il parlait à mi-voix. Je voyais sous sa nuque franche son complet, pas trop bien coupé, mais allant bien sur ses épaules un peu tombantes. Et de part et d'autre de lui, des mains assez fines, posées sur le grand éventaire de plastique, sous quoi étaient les briquets. Yvonne le regardait. En un instant, en un clin d'œil, elle, si enjouée tout à l'heure, si altière et expansive, avait changé de visage. Changée ? Ce n'est pas qu'elle se ferma, qu'elle ne donna plus. Elle donnait tout autre chose. Comme Jean-Gabriel, peut-être, voyant la main ineffable derrière celle qui bandait l'arc et bénissant les 2, tremblant. Mais j'étais à 100 lieues de penser à Jean-Gabriel. Elle s'était empourprée, le menton plus blanc hésitait s'il continuerait de sourire. Il continuait, mais il y avait dans les yeux cet appel, ce rêve, ce refus qu'ont les femmes de l'ombre et celles à la messe, une servilité délicieuse et un vain frisson de révolte plus délicieux encore. Elle bronchait, elle cédait. Elle donnait à la fois sa révolte et sa défaite, les 2 s'aiguisant, sans qu'aucune l'emporte. Cela se fit en un moment. Le murmure inaudible de l'homme les mains appuyées sur la vitre au briquet, le regard vacillant d'Yvonne et ce pathos brûlant à ses joues, l'éclair de bête bronchant, tenu. L'homme fit volte-face. Il était de taille médiocre, costaud, mais sans plus, avec des cheveux épais, un blond terne planté bas, des yeux petits et sûrement rieurs, et une large bouche généreuse ou avide. Il avait le teint coloré, et je l'ai dit, la main déliée. Il n'avait pas salué, mais rien dans sa personne n'exprimait de la brusquerie ni de l'hostilité. Une certaine courtoisie, au contraire, comme du calme, régnait sur cette carrure tombante, cette élégance un peu basse, ses traits gros et francs au charme inattendu, et lui, ce charme fin. Là-dessus, le contentement un peu ivre des chasseurs qui viennent de réussir un coup de fusil. La pluie tomba aux épaules. Sans presser le pas, il regagna une vieille Peugeot dont il n'avait pas coupé le moteur. Pendant l'instant de silence qui pesa dans la boutique, je pensais au bruit du sang qui battait aux joues d'Yvonne. Les commères se regardaient avec de petits sourires dont la cruauté était bien près de les rendre belles. Les paysans demandaient leurs cigarettes d'une voix lourdement câline, avec quelque chose de mauvais. C'était de cela sans doute. Yvonne baissait la tête, dérobait ses joues. Me vendant mes Marlboro, elle releva violemment les yeux et me regarda comme jamais elle ne l'avait fait. À la fin de novembre, le temps changea. Les eaux se prirent. Les champs inondés gelèrent. Des touffes de joncs cuites sortaient toutes droites de l'étendue. On était dans l'époque où on vend des vignettes pour les autos. Il pouvait être 3 heures et nous étions encore un dimanche. De la neige était tombée pendant la nuit, avec ses petits flocons réticents et serrés des grands froids qui laissent peu de traces. Il gelait ferme. Le ciel pur était rigide. La lumière semblait verte. On pouvait attendre encore 1 heure de jour. Le tabac était plein de clients mécontents qui s'impatientaient, tapaient la semelle et de guerre lasse s'en allaient. Yvonne n'était pas là. Et le petit Bernard qui gardait la boutique, comme souvent il arrivait, s'il savait vendre journaux et cigarettes, n'aurait su faire les opérations compliquées qui accompagnent la délivrance des vignettes. Je sortis en coup de vent de la boutique. Je ne sais quel pressentiment étranglé me fit prendre à fond de train la route des Martres. Sous les acres noyés, je me retenais pour ne pas courir. Le froid pur m'aiguisait. Le monde était un nylon glacé, un fabuleux apprêt, sous quoi palpitait, je ne savais où, une chair bouillante qu'il me fallait saisir, dont il me fallait brûler. Je voulais le soulever et qu'il crissât. Mes oreilles bourdonnaient, je n'étais plus à moi. Il y a une longue ligne droite après la sortie du bourg, plus loin que les noyers, avant les bois, tout entouré de grands champs. Mon regard durement fouillait ces champs, se portait aux confins, remontait aux lisières, tout lieu où 1000 fois naissait Yvonne dans ses bas, blanche, les reins nus dans le froid, mordu, jeté hors du bois dans les sévices de l'hiver et de mon esprit. Ce gros gibier 1000 fois disparaissait. Je vis soudain s'agiter très loin quelques petits points qui sortaient du couvert et s'engageaient sur le versant d'un pré. Se rapprochant, ils me laissèrent deviner la tache rouge d'un bonnet qui dansait doucement au hasard du terrain. Et autour de celui-ci, d'autres bonnets, des capuchons, d'autres jambes qui venaient hardiment, 4 ou 5 bons hommes résolus mais étriqués, comme de vieux petits nains. Ces nains portaient quelque chose. Ils poursuivaient leur chemin le long du pré, vers la route, sans s'écarter de la lèvre brune de l'orée aux arbres cuits. Il arrivait à Yvonne aussi de prendre haut chaussée à travers pré dans ses périples énigmatiques. Et les nains, sans doute, annoncent la reine. Ils tournent autour d'elle. Sans réfléchir davantage, j'enjambais la haie et marchais à leur rencontre. C'étaient des enfants de l'école. de ceux qui habitaient la commune des Martres, ainsi que je le reconnus alors qu'ils étaient encore loin. Ce que deux d'entre eux portaient sur un bâton pesant à leur épaule me surprit fort, et d'abord j'en doutais. Mais non, c'était bien un renard suspendu par les pattes à la mode ancienne ou sauvage, et on ne savait pourquoi par ce moyen transporté à travers le froid. La bête était évidemment morte, la grosse touffe abandonnée de sa queue balayait les pieds des enfants, pesamment rousse sous le ciel vert. Je pressais encore le pas. Ce trophée d'un autre âge que des chasseurs nabots apportaient vers moi, l'offrande qu'il m'allait en faire, cette fine bête carnassière livrée à des mouflets de l'arrière-campagne, le bonnet rouge vif, les capuchons vieillots, l'affairement borné des porteurs et les danses sottes des autres qui gambadaient autour, tout cela décupla ma scélératesse, la fella, l'affuta du malaise sans quoi elle est défectueuse. J'étais dans un fabliau obscène. Une cognée invisible à tour de bras ébranlait un arbre. Les bois s'emplirent du cri lamentable des loups se gorgeant d'une belle victime qui vous est chère. Ce bâton en travers d'épaule me parut propre à d'autres proies. J'y crus voir, garrotté sous des nylons froids que la posture troussait, au lieu du poil roux, celui tout noir et cru, moussant aux cuisses épaisses de cette garce. Je courais tout à fait, j'en avais le prétexte. Des joncs se brisaient sous mes pieds, l'air à mes oreilles m'étourdissait, sorti du bois par une sente infime, toute droite et peut-être effrayante comme Isengrin le connétable, âpre comme sa louve, elle était là, à deux pas de moi, debout, telle qu'en courant j'aurais pu la heurter. Elle me parut géante. Je m'arrêtai court. Il n'y avait pas un souffle de vent au bord du bois. Elle était là, sur son 31, dans un de ses amples manteaux bruns du genre carrique qu'on imagine aux épaules de hautaines mijaurées début de siècle qui, le doigt en l'air et la bouche en cerise, regarde à la lorgnette des casaques au pesage. Là-dessous des perles, qu'en dépit de l'hiver, elle découvrait à son cou. Les sequins, comme toujours, et de fins bas glacés sous quoi la blancheur exaspérée rosissait dans le froid. Tout ce chic à l'orée d'un bois perdu était déplacé comme une gravelure sur des casaques. J'essayais en vain de reprendre mon souffle. Ce qui le coupait maintenant venait de plus bas, affûté comme un rasoir. Je crus qu'elle aussi avait couru. Le souffle emportait dans une même précipitation la gorge, le carique et les perles. Tout cela s'agitait. Au reste, l'haleine courte que le gel divulguait disait assez son empressement ou son émoi. Le froid l'avait giflé. Les lèvres étaient considérablement gercées, écorchées, mais maquillées sur la plaie. Elle regardait venir les enfants et m'abandonnait son profil, comme si elle ne m'avait pas vu. Cette lourde coquetterie me fouetta autant que l'aurait fait sa nudité. Son haleine s'arrêta. Lentement, elle me fit face, et avec un regard que le ravissement exaltait mieux que les sequins, mieux que le diadème corbeau et la bouche éclatée, elle me donna son beau visage, noyé, ses pommettes bouillantes, ses yeux fixes. Ses narines frémissaient. Elle renversa un peu la tête vers la gauche, comme pour regarder vers le bois, mais avec une lenteur affectée et sans me quitter des yeux. Elle avait sur la droite ainsi découverte, épargnant le grain de beauté, mais la poignant au plus plein, largement bourgeonnant au cou, fleurissant plus bas sous le carique et effleurant la joue d'un pétale abject, la marque épaisse, boursouflée de sang noir, et plus meurtri qu'un cerne, plus mâché que ses lèvres, que laissent avec éclat les fouets. Le feu que cette vision fit circuler dans mes veines aurait dû m'arracher un cri. Rien ne pouvait égaler la mise à nu de ce visage où soudain avaient bondi, comme ses autres lèvres, les fraises de ses seins. Son regard glorieux était planté dans le mien. Je le saisissais et elle rougissait interminablement. L'arrogance et la honte se la disputaient comme un morceau de viande, deux chiens de même force. Et comme ce morceau de viande, elle tenait. Les enfants étaient sur nous. Allait-elle relever là ses jupes et me montrer le reste devant eux? Elle en avait l'ivresse. Ils étaient à notre hauteur, ils passaient avec de grands saluts bruyants. Les nains qui m'apportaient des cailloux regardaient la reine avec des yeux ronds bien directs, la buraliste. L'un d'eux tenait un petit panier plein d'œufs blancs. Le goupil se balançait au rythme de la marche, la gueule ouverte sur tous ses os sortis dans des gencives noires. La queue raide gelait. Je le vis dans un éclair, nos yeux ne se lâchaient pas. La louve n'avait rien regardé. Qu'est-ce que c'est, dis-je, hors de moi. Je ne sais de quoi je voulais parler, de quel indicible trophée roux ou cramoisi, mais ces mots m'étranglaient, il fallait qu'ils sortent. Je les entends encore siffler dans l'air pris, s'embuer contre le fer des haches. J'étais l'arbre. Ils le portent, dit-elle, dans les maisons, ils le montrent. On leur donne un peu d'argent, des œufs. Le soir, ils le dépouillent contre une porte. Sa voix était trop pointue et cinglante, avec une espèce de préciosité qui l'affaillait. Elle retroussait ses lèvres enflées et zézayait un peu. Au-delà de toute rougeur, ses mots étaient une honte pure, comme la marque fraîche qui brûlait dans le froid. « Que font-ils du corps ? » repris-je dans la même exaltation. Elle hésita. La voix aiguë jaillit et se brisa net, sa bouche était sèche. Et dans un souffle, baissant enfin les yeux, « Je suppose qu'ils le donnent aux chiens ?» Le morceau de viande se déchira. Ses mains se raidirent dans la poche du carrick. Elle frémit. Son menton tremblait. Elle redevint la femme qui vendait des Marlboro au jeune instituteur et faisait comme elle pouvait sa vie à Castelnau. Elle existait. La grande Calipige est une pauvre femme. Elle détourna la tête comme quand on va pleurer et, sans un mot, me laissant là, prit à travers le pré vers le village où elle vendait des vignettes avec sur la joue la sienne. Elle en avait une autre dans le gras du mollet, bouleversante sous le nylon noir. Elle marchait lentement, démesurément. Elle balançait en marchant. Les petits capuchons étaient en train de disparaître sous des noyers. À leurs épaules, dans l'ombre, la bête emblématique, le coyote ou le chien dingo, le goupil, le décepteur des vieilles cosmogonies, le roux, le rusé, le flatteur du fabuliste, était depuis longtemps invisible, se balançait aussi sans doute. La nuit tombait. Les étoiles affûtées se clouaient là-haut. Les haches frappèrent plus mates dans mon dos. L'arbre croula dans un fracas de portes de grange que le vent ouvre et claque. Les lumières s'allumaient dans Castelnau. Il y avait encore sur la grande nuit une main de blanc pur à l'ouest. La reine était au bas du pré, haut talonnée comme une grue, nue sous son falbala comme un poisson qu'on écaille. Ses reins bougeaient. Je pensais à ce qu'ils avaient bougé tout à l'heure davantage. Je pensais à son enjouement, à sa cruelle élégance, à l'orgueil d'être belle, à la honte qui froissait sa voix au perché, à ce qu'était son cri. Je pensais qu'elle était la maman du petit Bernard. Les joncs acérés caressaient ses chevilles, filaient son bas, coupaient. Cela me perchait au ventre. Sous l'ombre, sous le manteau, sous la jupe, sous les nylons, les sequins, les perles et le 31, sous les ganses et les fronces de la milady, il y avait tout contre les bas nocturnes, cette chair d'un jour éblouissant au plus blanc de quoi j'imaginais. 20 fois répétée, assénée, reçue dans des bonds intenses et ponctués de sanglots, la lourde phrase sans réplique, toujours redondante, toujours jubilante, suffocante, noire, l'écriture absolue qu'elle portait au visage.